Alors, c'est la rentrée des écoles du dimanche, des ados également. Alors, je rappelle les consignes. Hein, donc, il faut sortir par la porte, sur la seule porte sur laquelle il est marqué sortie. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. On est censé faire un sens, donner un sens à tout ça. Donc, sortie par la porte sortie. Les parents ne sont pas ennemis dans les locaux de l'école du dimanche. Et les moniteurs monitrices veilleront donc à limiter le contact entre les enfants et chaque enfant aura son matériel. Voilà, je rappelle aussi que pour la Sainte-Seine qu'on prendra tout à l'heure, la première Sainte-Seine aussi, depuis longtemps, elle a été préparée selon les consignes en usage et on a pris le maximum de soins pour la préparation de cette Sainte-Seine. Seigneur, bénis encore cette rentrée des écoles du dimanche. Bénis chaque enfant qui vient aujourd'hui ou qui viendra dans les semaines qui viennent. Bénis chaque famille chargée de l'éducation de ses enfants. Et bénis chacun de ces moniteurs, monitrices qui, au nom de ton Église, essayent d'enseigner, d'accompagner, de témoigner de sa foi auprès de ses enfants afin qu'ils grandissent dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance et qu'ils donnent un jour leur vie au Seigneur. Que ta bénédiction soit sur toute ton Église dans cette tâche d'éducation et sur ceux qui le font en notre nom maintenant. Amen. Voilà, la porte va s'ouvrir. On aurait dû, voilà, par mesure de sécurité, on aurait dû enlever, voilà, déverrouiller la serrurerie. Alors, nous avons commencé une petite série sur Néhémie la semaine passée, mais j'ai pensé que ce serait une bonne chose de l'interrompre sur un sujet, le sujet de la Sainte-Seine. Comme nous n'avons pas pris la Sainte-Seine depuis, en tout cas dans notre Église, depuis le début de mars, ça fait 6 mois, c'est une bonne chose peut-être d'introduire par une prédication sur cette Sainte-Seine aujourd'hui. Alors c'est bon de rappeler avant de lire le texte que notre culte a une certaine forme. Et si certains éléments étaient oubliés, on le remarquerait. Il y a toujours des lectures de la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons eu des lectures longues et abondantes, et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Il y a des prières. Il y a de la louange, il y a de la confession de nos péchés, de confession de foi. Il y a de la reconnaissance, il y a un temps de louange chantée, il y a une prédication, il y a une bénédiction, et ainsi de suite. On a oublié quelque chose. Il y a 2 ordonnances qui viennent du Seigneur. Le baptême, qu'on pratique quelques fois dans l'année, et la Sainte-Seine, qu'on pratique plus régulièrement. Et donc, c'est aujourd'hui, nous parlons de la Sainte-Seine. Alors, c'est bon de rappeler que c'est un élément important de nos cultes. Et nos communautés évangéliques prétendent que la Sainte-Seine est donc un élément important de leur culte. Pourtant, la réalité de ce que nous vivons dans beaucoup d'églises vient contredire un peu parfois cet idéal. La scène souvent, et trop souvent, on peut la vivre mal, sans grande intériorité, sans grande profondeur. Bien sûr, ça dépend de nous. Mais bien souvent, elle n'est qu'un ajout à la prédication. Qui n'a pas le souvenir de culte où la Sainte-Seine s'est limitée à une prière, suivie du partage du pain et du vin, sans qu'aucune parole ne soit prononcée, sans qu'un seul regard ne soit échangé entre ceux et celles qui partageaient pourtant le même pain et qui buvaient la même coupe. Il y a quelque chose là d'étrange, qui nous paraîtra encore plus étrange quand nous lirons ce que ont vécu les Corinthiens. Et nous avons tous souvenance de ces scènes où il ne se passe rien, sinon peut-être une forme de gêne devant un moment qui aurait dû être porteur pourtant de sens et d'où ne sort qu'un vague ennui. L'ennui d'un geste répété sans que rien ne vienne rompre la monotonie de quelques paroles prononcées sans grande conviction. Mais le texte que nous allons lire maintenant, dans 1 Corinthiens 11, dans ce texte, il y a une autre façon. Il apparaît qu'il y a une autre manière de participer à ce repas, et que ce repas peut être source d'abondante bénédiction s'il est vécu dans la pensée du Seigneur. Alors ce texte, nous le lisons de temps en temps quand nous préparons Sainte-Cène, quand nous nous préparons à prendre le repas du Seigneur, et donc je vais le relire maintenant. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 32. Car moi, donc c'est Paul qui parle, moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, donc à vous Corinthiens. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, c'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi qu'alors il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes, un assez grand nombre, et qu'un assez grand nombre donc se sont endormis dans la mort. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors Paul n'était pas présent à la première scène, mais il connaissait bien les disciples qui y étaient. Et en plus, il nous dit que le Seigneur lui a révélé certaines choses personnellement. En plus, Paul a écrit son récit une bonne dizaine d'années avant que les évangiles ne soient écrits, pour répondre donc à des questions pratiques dans l'église de Corinthe, où la Sainte Cène suivait l'agape, le repas fraternel. Il explique donc plus que les évangélistes, les quatre évangélistes, il explique donc plus comment observer cette ordonnance du Seigneur. Il explique aussi les pièges qu'il convient d'éviter. Donc à partir de ce texte, on peut proposer d'aborder la Sainte Cène en quatre questions. Pourquoi célébrer la Sainte Cène? Que signifie la Sainte Cène? Qui est invité? Qui ne devrait pas y participer? Quelles sont les conséquences de la Cène pour nous? Alors pourquoi célébrer la Sainte Cène? La réponse est simple, elle est très simple. Pourquoi célébrer la Sainte Cène? C'est comme pourquoi prier? C'est parce que le Seigneur nous a dit de le faire. Voilà, c'est tout simple. Deux fois dans ce passage que nous avons lu, en distribuant le pain et en donnant la coupe aux disciples, le Seigneur leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi » à deux reprises. Et ils ont compris que Jésus avait laissé ces symboles à son Église en mémoire perpétuelle de ce qu'il avait fait pour nous, en mémoire perpétuelle de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, avec une référence spéciale, bien sûr, à sa mort pour nous. Mais Jésus n'a pas précisé à quelle fréquence il fallait observer cette cérémonie, quand il fallait observer cette cérémonie, avec quelle régularité. Dans certaines églises évangéliques, ne parlons que d'elles, c'est une fois par semaine. Tandis que dans d'autres, la Sainte Cène n'a lieu qu'une fois par mois, puis deux fois par mois. Donc toujours de peur qu'une observance trop fréquente enlève à la Sainte Cène une partie de son sens. Et dans d'autres églises évangéliques, ça existe aussi, c'est deux ou trois fois par an. Alors le Seigneur nous laisse libres, pourvu que nous donnions à la Sainte Cène toute sa signification. Ce qui nous amène à la deuxième question qui est un peu plus compliquée. Que signifie-t-elle? Là, on peut dire cinq choses. D'abord, c'est un repas. ce que nous appelons la Sainte Seine, hein, certains ne sont pas habitués à cette appellation, mais c'est l'appellation courante dans nos milieux. La Sainte Seine, ça veut dire le repas, le saint repas du soir. Hein. Et la Seine est la commémoration du dernier repas de Jésus, hein, avec ses disciples qu'il a pris le soir, hein, donc du jeudi saint, hein, avant d'être crucifié le lendemain. Hein. Le jeudi soir avant le vendredi où il a été crucifié. Donc d'où sa solennité. Le mot scène, c'est bien, vient du latin cena, qui veut dire repas du soir. Et la première scène était donc un repas spécial, hein, une sainte scène. C'est un vrai repas que Jésus a pris avec ses disciples, mais qui avait un caractère spécial. Aujourd'hui, c'est un repas symbolique, hein, que nous prenons en mémoire de lui. C'est une sainte scène parce qu'elle est différente des autres repas, hein, même pour Jésus, hein, et les disciples, hein, comme nous allons le voir. Hein. Parce qu'elle a lieu pendant ce que nous appelons la Semaine Sainte, hein, qui s'est terminée par la mort et la résurrection de Jésus. Alors, c'est un mémorial aussi, un souvenir. Hein. Jésus prenait la sainte scène la nuit où il fut livré. Comme Paul et les évangiles nous le rappellent. Les quatre évangiles nous disent que Jésus a même parlé de son arrestation lors de ce repas. Ça a jeté un froid, hein, au cœur des disciples, hein, dans le cœur des disciples. Ce n'était pas un repas très joyeux, hein, puisque tout de suite après le repas, Jésus allait souffrir l'agonie de Gethsémané, suivi de son arrestation et de sa mise à mort. Et c'était le repas de la Pâque, comme disent les évangiles, Marc 14, 16 par exemple. Cette fête juive donc, qui célébrait la sortie d'Égypte, la délivrance grâce à l'agneau, hein, cette bête sans défaut, dont le sang sauvait les premiers-nés de la mort en Égypte. Donc les Israélites de l'ancienne alliance avaient été sauvés par le sang versé d'un agneau immolé. Donc. Mais Jésus a donné une signification toute neuve à la Pâque. Cette coupe, dit-il, verset 25, est la nouvelle alliance en mon sang. Il n'y a plus de sacrifice nécessaire pour le salut et le pardon des péchés, car c'est lui, Jésus, l'agneau immolé. Enfin, ses disciples commencent à comprendre les paroles de Jean-Baptiste, qui avait été dites tout au début du ministère de Jésus, 3 ans auparavant. Jésus, Jean-Baptiste avait désigné Jésus qui passait en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Les autorités religieuses avaient voulu éviter, hein, de tuer Jésus à la Pâque. On le voit, hein, en Marc 14, 1 et 2. Mais c'est Dieu, hein, qui souverainement en a décidé autrement, hein, pour que toute la signification de la mort de Jésus soit claire. Donc même les ennemis de Jésus, hein, ont dû accomplir la volonté de Dieu dans ce sens. Jésus n'est pas mort par hasard, hein, ni à une date aléatoire. Hein. Tout cela fait partie du plan de Dieu pour notre salut. Et cette nouvelle alliance dont le sang de Jésus est une alliance de la grâce de Dieu, hein, qui paie le prix de notre péché. Nous étions morts, hein, par nos fautes, incapable de nous sauver par nos propres efforts, il nous a rendu la vie avec le Christ, comme dit Éphésiens 2, verset 5. Donc la Sainte Cène nous rappelle, comme Jésus l'a dit, qu'en dehors de lui, on est perdu. Il est impossible de mériter le salut et la vie éternelle par nos propres efforts. C'est Jésus qui a payé le prix fort et volontairement. Et puis troisièmement, la Sainte Cène, c'est une façon de dire merci. C'est donc un repas où nous nous souvenons que nous devons tout au sacrifice de Jésus. Et pour cette raison, c'est aussi une occasion où nous remercions Dieu. Jésus a rendu grâce, hein, verset 24, en prenant le pain. Ce qui nous rappelle en passant qu'il est bon. Hein, je sais que c'est un dada pour moi, mais ce n'est pas qu'un dada, c'est quelque chose de tellement profond, je crois. C'est bon de rendre, de remercier Dieu avant de manger, hein, ce qu'il nous donne. Hein. 1 Timothée 4, 4, hein, tout est bon si on rend grâce à Dieu, hein, qui est l'auteur de toutes choses. Mais il y a plus ici dans l'action de grâce. Ici, nous ne le remercions pas seulement pour la nourriture de tous les jours. Nous sommes appelés à le faire donc chaque jour. Mais nous le remercions pour le sacrifice de Jésus à la croix pour nous, sacrifice qui nous donne la vie. Et puis quatrièmement, c'est une prédication. Car toutes les fois, dit Paul, que vous mangez ce pain et ce vin, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur pour vous. Verset 26. Donc ça, c'est très important. Le repas de scène donne l'occasion aux chrétiens de célébrer leur salut. Chaque fois qu'ils se rassemblent autour de la table du Seigneur, ils proclament que le Christ est aussi indispensable à leur survie spirituelle que la nourriture et la boisson le sont à leur survie physique. De plus, ils se réjouissent de ce que le Christ et leur salut leur sont ainsi facilement accessibles, aussi facilement accessibles que le pain et le vin le sont à la table, à notre table aujourd'hui. Alors Jésus est au centre de la Sainte-Cène, il ne faut jamais l'oublier. Lorsqu'il passa le pain et le vin, Jésus a ajouté ces paroles, « Faites ceci en mémoire de moi ». Et dans la célébration de la Sainte-Cène, les projecteurs ne sont pas braqués sur le pain et sur le vin, mais sur le Seigneur, le Sauveur surtout, qu'il représente. Et donc c'est important de le rappeler, c'est important que nos esprits soient préparés, concentrés dans ce sens. Et puis cinquièmement, c'est une expression de communion. Un autre sens de la Sainte-Cène est exprimé par le mot de communion. Communion avec Dieu, communion avec les frères et sœurs. Quand Jésus parle d'une nouvelle alliance, verset 25, il parle de notre communion retrouvée, de notre relation retrouvée avec Dieu qui a été interrompue par le péché et qui est rétablie grâce à son sacrifice unique. Et Jésus avait toujours enseigné à ses disciples, même ce soir-là, par le lavement des pieds, qu'ils étaient appelés à vivre en harmonie et à être serviteurs les uns des autres. Et donc la croix de Jésus, symbolisée par ce repas, nous rapproche de Dieu. Mais elle nous rapproche aussi des autres. Et donc il y a une communion dans les deux sens, vertical et horizontal. Comme Paul le dit aux Juifs et aux Grecs, aux chrétiens d'origine juive et aux chrétiens d'origine non juive, en Éphésiens 2, versets 13 et suivants. « Maintenant, Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. » Il a dans sa chair créé en lui avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix en tuant par elle l'hostilité, l'inimitié comme disent les anciennes traductions. Et aussi en 1 Corinthiens 10, 16 et 17, l'apôtre Paul nous dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous au même pain. » Donc c'est pourquoi le Seigneur nous dit de nous réconcilier avec notre frère, notre sœur, si nous nous approchons de Dieu, et donc si nous prenons part à la Sainte-Cène. C'est pourquoi aussi nous prions souvent les uns pour les autres, après la Sainte-Cène, c'est la prière d'intercession. Dans certaines églises, l'offrande a lieu après la Sainte-Cène. Ça a du sens à n'importe quel moment du culte. Après la première partie, ça symbolise la reconsécration à Dieu. Après la Sainte-Cène, c'est aussi c'est une offrande de solidarité. Ça exprime bien cette solidarité pour les besoins de l'Église. Solidarité que l'on a mis en valeur en prenant le repas du Seigneur. Donc il faut ajouter aussi que participer à la Sainte-Cène n'a aucune efficacité sacrificielle, comme on dit, ou méritoire en tant que tel. Ça, c'est la conception catholique romaine. La messe, pour la doctrine catholique jusqu'à aujourd'hui, est le renouvellement du sacrifice du Christ. Le pain devient littéralement, matériellement, le corps du Christ, même pour ceux qui n'y croient pas. Et il est offert pour mériter des grâces. Or, la lettre aux Hébreux nous dit que Christ s'est offert une fois pour toutes. Hébreux 9, 28. Et selon le Nouveau Testament, ce repas est symbolique et ne nous apportera aucun bénéfice spirituel si nous ne nous, nous laissons pas chacun toucher par son sens spirituel, comme nous allons le voir en répondant à la prochaine question. Alors cette question, c'est qui peut participer à la Sainte-Cène qui ne devrait pas y participer ? Alors au verset 27 et 28 et 29, sans entrer dans tous les détails, Paul donne un avertissement sévère à l'église de Corinthe. Celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors il est clair que manger le pain et boire la coupe indignement veut dire les prendre à la légère. Prendre la Sainte Cène sans se laisser toucher par le sens profond de ce que nous faisons, sans méditer le coût énorme que le Christ a payé pour nous affranchir du péché, de notre péché. Alors pour revenir à Corinthe, la Sainte Cène suivait une agape, un repas fraternel. Et les riches mangeaient et buvaient à excès. Ils mangeaient et buvaient ce qu'ils avaient apporté. Les riches apportaient beaucoup, les pauvres n'apportaient presque rien. C'était des esclaves qui venaient pour le culte. Et donc certains mangeaient ce qu'ils avaient apporté, mangeaient beaucoup et à l'excès. Et les autres ne faisaient que regarder et ne mangeaient rien. Et ces riches ne partageaient pas ce qu'ils avaient apporté avec des frères et sœurs moins fortunés. Et Paul dit au verset 21 que certains étaient même ivres à la fin de l'agape, et donc il n'était pas en état de prendre la Sainte Cène. Alors on va dire que c'est un cas extrême, mais dans un cas extrême, c'est comme une loupe, on voit mieux les choses. C'était un cas extrême, mais sans nous laisser aller à un tel excès, nous aussi nous pouvons prendre cette Sainte Cène indignement. Alors les chrétiens de Corinthe venaient indignement parce qu'ils ignoraient et niaient la signification de la Sainte Cène avec leur comportement l'un envers l'autre. L'aspect unité, l'aspect communion fraternelle n'existait pas dans l'Église à cause de leur division. Et ce manque d'unité se voyait dans la façon que les cultes et les repas en commun se déroulaient. Ils avaient donc tort de prétendre proclamer l'unité par le repas du Seigneur. C'était une insulte. Ils ne discernaient pas le corps du Seigneur. L'Église, il ne discernait pas la nature des relations qui devraient exister dans l'Église. Et Paul ne parle pas de l'Église universelle, vous savez, celle qu'on ne voit jamais. Le corps du Christ dans le sens le plus grand que l'on trouve ailleurs dans ses écrits. Non, il parle de l'Église locale, du corps du Christ manifesté dans cette ville de Corinthe. Le corps du Christ local, l'Église locale. Et donc, c'est toujours bon de se poser la question, comment est-ce que nous faisons dans l'Église, comment sont nos relations les uns avec les autres, voilà la bonne question à la lumière que nous pouvons nous poser toujours, à la lumière de ce qu'ont vécu les Corinthiens. Et puis le verset 28 nous aide à comprendre que chacun s'examine soi-même et qu'il participe à ce repas. Jésus est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Mais ce n'est pas automatique. Pour être pardonné, il faut se repentir. Il faut demander pardon. Et pour se repentir, il faut identifier, reconnaître notre faute personnelle. Et donc, il faut s'examiner soi-même. Il faut passer du temps devant le Seigneur, dans la prière, à la lumière de sa parole, lui demander de nous révéler même nos péchés cachés, c'est-à-dire cachés à nous-mêmes. Peut-être pas caché à nos frères et sœurs, pas caché aux membres de nos familles qui les voient trop, mais ces péchés donc, dont nous nous accommodons, que nous ne voyons plus, que nous ne sentons plus. Comme dit le psalmiste dans le psaume 19, « Qui connaît ses fautes involontaires ? Pardonne-moi ce qui m'est caché. » Ou encore, dans le psaume 32, plus connu encore, « Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient. Je gémissais sans cesse, nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur s'était changée en sécheresse d'été. Alors je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert, caché ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant l'Éternel. Et toi, tu as pardonné ma faute. Psaume 32, 3 et 5, 3 à 5. Alors, qui peut participer à la Sainte Cène? Pour revenir à la question, ben, normalement, il faut être baptisé. Baptisé sur profession de sa foi. Le baptême et la Sainte Cène sont en relation, hein, depuis toujours, hein, dans la doctrine chrétienne. Si le baptême est le témoignage initial, hein, de notre engagement envers Jésus-Christ, la Sainte Cène est le témoignage répété ensuite de ce que nous nous mettons au bénéfice du sacrifice du Christ pour tous les aspects de notre vie. Mais avant de le répéter, il faut avoir commencé. Et le commencement, c'est le baptême. Et donc, prendre la Sainte Cène sans avoir été baptisé n'est pas logique. Il y a certes des situations sans doute particulières à considérer parfois, mais la règle est toujours là. Il faut veiller au refus d'obéissance concernant le baptême qui serait en contradiction avec le témoignage de la Sainte Cène. Et une fois baptisé, bien l'important c'est le cœur humble, le cœur contrit. Celui qui est invité à ce repas, c'est celui qui discerne le corps du Seigneur, c'est-à-dire celui qui se reconnaît pécheur, qui admet qu'il n'est pas digne de l'amour de Dieu, qui sait qu'il ne peut pas mériter le salut sans la bénédiction, et qui ne peut pas mériter la bénédiction de Dieu. Alors voilà les sentiments qui doivent être les nôtres quand nous prenons la Sainte Cène. Cela semble tout simple. Oh ! Et pourtant, ce n'est pas normal de se reconnaître pécheur, ce n'est pas normal de se reconnaître incapable. Il faut un travail profond de la grâce, et si ce travail est là, alors là, tout est possible. Alors, qui ne devrait pas participer à la Sainte Cène ? Tout simplement celui qui n'est pas encore arrivé à ce point. Celui qui pense pouvoir se justifier devant Dieu. Celui même converti, qui persiste, et qui persiste à vivre dans le péché. Alors on pense bien sûr à des choses extraordinaires. On pense à la malhonnêteté, au péché sexuel. Mais devrait aussi s'abstenir celui qui ne se repent pas de son orgueil, qui n'est pas touché par son égoïsme, son manque d'amour pour Dieu, pour les autres. Alors, personne n'est parfait, bien sûr. Mais nous, si nous ne participons pas à la Sainte Cène, parfois, nous n'y participons pas pour de fausses raisons. Notre conscience nous accuse de choses que nous n'avons pas commises, ou de choses pour lesquelles il faut demander pardon à Dieu dès qu'il nous le montre. Et on demande pardon à Dieu et on participe à la Sainte Cène. Sinon, il y aura toujours un péché entre Dieu et nous. Et on ne participera jamais. Et le diable accuse les frères à ce moment-là. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose, le Seigneur nous montre qu'il y a vraiment un comportement persistant dans le péché, qui n'est pas réglé avec Dieu, alors il faut mieux s'abstenir de prendre la Sainte Cène. Mais ce qui est bon de rappeler, c'est que même si nous ne prenons pas la Sainte Cène dans ce cas-là, le Christ est là pour nous inviter à nous approcher spirituellement de lui, à lui parler dans le silence, à lui confesser notre besoin de lui, pour que nous puissions un jour participer à la Cène, comme disent les versets 28 et 31. Donc ne laissons pas, si nous sommes dans ce cas-là ce matin, ne laissons pas passer cette occasion, dans le silence, de nous approcher de Dieu dans la prière et dans la repentance. Dieu regarde au cœur. Alors en conclusion, quelles sont les conséquences de la Sainte Cène? Elle nous rappelle que nous avons été rachetés à grand prix, on l'a dit. 1 Corinthiens 6, 20. On s'habitue trop à ce prix énorme que le Christ a dû payer pour nous. Parce que le péché est énorme, le Christ a dû payer un prix encore plus énorme. Et si nous sommes ici aujourd'hui, si nous partageons ce pain, c'est grâce uniquement au sacrifice du Christ. Il n'y a donc aucune raison d'être fier de nous, de se croire supérieur à la sœur d'à côté ou au frère de l'autre côté. Hein? Et donc, ça change tous nos rapports. Hein? Nous sommes égaux dans le péché, égaux dans la grâce, hein? égaux dans le salut reçu. Hein? Romains 3, 27. Tous ont péché, ils sont privés de la présence miséricordieuse de Dieu, mais tous peuvent être justifiés par grâce, par le moyen de la foi. Et comme nous l'avons dit, la Sainte Cène parle de communion, celle qui rétablit avec Dieu. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous devons aussi être réconciliés avec nos frères et sœurs. La croix a une dimension donc verticale, comme la jolie croix que l'on voit chaque dimanche, et une dimension horizontale. Et une croix sans ces deux dimensions, eh bien, ne serait plus une croix, on est bien d'accord. L'apôtre Jean souligne cet aspect avec ses paroles incisives. 1 Jean 4, 10, 11 plutôt. Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Notre passage nous dit que nous annonçons la mort du Seigneur. Mais il y a une autre dimension également que je voudrais ajouter maintenant. Nous nous projetons aussi dans l'avenir. Car nous pensons aussi au retour du Seigneur dans la gloire. Les évangiles disent ceci en citant Jésus. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Matthieu, par exemple, 26, 29. Donc que le Seigneur nous aide à nous rendre compte de tout ce que la Sainte Cène symbolise. Et il y a une vieille prière de Sainte Cène qui existe, celle de la Didachée, écrite quelques années après le Nouveau Testament. Je vous la lis. « Que la grâce arrive et que ce monde passe. Hosanna au fils de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. S'il ne l'est pas, qu'il se repente. Maranatha, viens Seigneur Jésus. » Donc que la Sainte Cène nous aide à nous rendre compte de tout ce que la Sainte Cène symbolise. Que le Seigneur nous invite à nous examiner honnêtement devant lui et que nous prenions part alors, que nous prenions part au pain et au vin, et librement et avec reconnaissance. Mais c'est bon de rappeler que nous prenions le pain et le vin ce dimanche ou non, que cette Sainte Cène soit un sujet de bénédiction pour chaque personne. Amen.